19h20, le 19 hors taxe avec Mélanie.
Tout pile, c'est jeudi, vous êtes sur FMR, bienvenue à tous, vous êtes peut-être dans la voiture à nous écouter dans les bouchons ou alors chez vous peut-être, je ne sais pas, vous préparez à manger. Eh bien, je vous donne rendez-vous comme tous les jeudis pour une heure d'émission, de chroniques, d'invités, de culture générale et un petit agenda. On va voir tout ça dans toute l'heure et je ne suis pas toute seule ce soir dans les studios puisque je vous ai promis un invité. Ce soir, je suis avec Guillaume Desgeorges. Bonjour Guillaume.
Bonjour Mélanie.
Ça va ?
Très bien, et toi ?
Ouais, première fois à la radio pour toi. Ravie de faire cette première fois, de t'inviter à FMR dans les studios. Donc tu es auteur et on va découvrir ensemble ce que tu fais, les livres que tu as écrits, les romans aussi. On va discuter toute l'heure en deux parties d'émission. On aura aussi une chronique polar faite par Betty, Un cri qui court dans la nuit. Et bien sûr, les anecdotes de culture générale. Et l'agenda. Donc, on commence tout de suite avec la playlist que tu as choisie pour nous ce soir. Bien sûr, c'est la playlist de l'invité. On commence par du local, puisque c'est Big Flo et Oli. Rentrez chez vous. Ok, c'est violent. Hein, c'est dès la première chanson, rentrez chez vous. Bon, c'est une façon de parler. Restez avec nous. On se retrouve juste après pour découvrir l'univers de Guillaume.
Ils ont fait sauter la tour Eiffel. Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait. Comment on a pu en arriver là? Difficile à croire. La nuit a été calme, ils ont bombardé trois fois. Je suis monté à Paris, retrouver ma copine. La guerre nous a pris par le col, nous a sortis de la routine. Remplacer les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris. Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris. Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train. Le départ est prévu pour demain matin. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait 4 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Putain, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qui l'ai connu qu'au travers des livres d'histoire. Je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux. On entasse des bus, on bloque les routes, on se protège comme on peut. Et la foule fuit ses fous sans camisole. Paraît qu'ils exécutent des gens en place du Capitole. 4 billets pour un ferry, une chance de s'évader. Une nouvelle vie de l'autre côté, la Méditerranée. Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit. Mon frère m'a dit, si je reviens pas, partez sans moi. Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau. Ça fait bientôt 4 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. Wagons bondés me rendent insomniaque. Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac. Le train s'arrête et redémarre, me donne des haut-le-cœur. On a fait en 2 jours ce qu'on faisait en 6 heures. Je dois rejoindre la famille au port de Marseille, mais j'ai pris du retard. Je crois bien qu'ils vont partir sans moi. Quel cauchemar! Pas grave, je les rejoindrai en barque. Pas de réseau, impossible de choper une barre. Je vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule. Elle dit qu'elle a vu ses parents coucher sous des linceuls. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait bientôt 6 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli. Direction Marseille, un tatou dans la soute. On fait semblant de pas voir tous les corps qui longent la route. Les villes ont changé, la vie et l'horreur aussitôt. Les métros sont des dortoirs, les cinémas, des hôpitaux. Sur le port, on se bouscule, on s'entasse devant. D'un coup, le ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans. À bord, je pleure l'état de ce monde. On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde. On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part. Enfin respirer, comme le lendemain d'un cauchemar. Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau. Ça fait bientôt 7 jours que j'ai pas de nouvelles de Flo. De Marseille avec la petite fille dans mes bras, presque un jour de retard, ils sont tous partis sans moi. Mais j'ai les contacts d'un passeur, une plage et une heure, plus de 30 entassés, bien sûr on ne voyage pas seul. Il me dit choisis la fille ou ton sac pour jeter du lest. Puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste. Et nous voilà partis, acteurs d'une drôle de fable, à la conquête du paradis sur un bateau gonflable. On navigue loin d'ici. Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir retrécit. Et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête. Nous voilà en pleine tempête. En une seconde, la fille m'échappe et plonge. J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde. La pluie, le sel et les larmes se mélangent. Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse. Le bateau se retourne, on se colle et on coule. Nos appels à l'aise sont perdus dans la houle. Dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec mes amis. On allait de bar en bar pendant toute la nuit. Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment. Mon âme éteint sa lanterne. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Je n'aurai plus jamais de nouvelles d'Oli. Le bateau accoste, première vision des barbelés. Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé. Encore des armes et des pare-balles. On nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas. On nous fouille, on nous désinfecte comme des animaux. On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot. Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas. Un niçois me raconte qu'il est là depuis des mois. Toulouse me manque déjà. Ma mère s'endort dans mes bras. Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra. La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles. Dans un journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la tour Eiffel. Le lendemain, on nous entasse dans des bus. Les autres sur les uns, qui peut le moins, peut le plus. Des centaines de fous accompagnent notre départ. Des poings brandis en l'air, des cris, des sales regards. Je crois celui d'un type qui scande avec ferveur. C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur. Je ne vois que lui, au milieu de la foule. Sur sa pancarte, il est écrit « Rentrez chez vous ».
C'est l'invité du 19 hors taxe. Attention, il y a des cafards dans l'escalier.
Alors ça, c'est la question, la toute première question qu'on pose avant une interview. Est-ce que tu as vu les cafards dans l'escalier?
Ah oui, j'ai vu les cafards dans l'escalier, ah, effectivement.
Je veux continuer à entretenir ce mystère. En effet, bon, on n'est pas sale, hein, c'est propre, hein, mais il y a des cafards. On vous en dit pas plus.
On les voit bien.
Voilà, on vous en dit pas plus. Alors bonjour Guillaume, ravi de te recevoir du coup à mon micro. Tu es auteur et tu as écrit 4 romans et 4 livres, si j'ai bien compris.
Ouais.
Le compte est bon ?
5 romans, mais
5 romans. Ah, parce qu'il y en a un qui est sorti à la fin de l'année.
Voilà.
Voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, justement, pour que les auditeurs te découvrent, toi, en tant que ta personne ?
Alors, Guillaume Desjardins, j'ai 48 ans. Et je suis, ce qui peut me définir, c'est que j'aime beaucoup de choses, donc je suis assez hyperactif. C'est vrai que je m'intéresse effectivement à l'écriture, beaucoup à la musique. Beaucoup au sport, donc je fais beaucoup de choses différentes. Voilà. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à faire des livres.
Voilà, donc tu écris depuis longtemps ?
Depuis toujours, j'ai l'impression. Après, je crois quand on est auteur, on a toujours écrit des poèmes, des petites histoires quand on était jeune, des choses comme ça. Après, de là, le premier roman, je l'ai écrit qu'à 40 ans. Donc finalement, j'ai mis du temps avant de faire un roman. Mais j'ai fait d'autres livres avant, ouais.
À 40 ans. Et ce n'est pas ton activité principale, c'est
non.
Plutôt une passion.
Tout à fait.
Comment est-ce que tu as décidé de te lancer justement dans l'écriture et de, je sais pas, en considérer ça comme une deuxième activité professionnelle presque ?
Alors c'est vrai qu'au début j'avais écrit plusieurs livres sur différents sujets parce que je m'intéresse à pas mal de choses et que du coup ça m'a amené à faire des livres sur de l'informatique, de la généalogie, un livre sur l'écologie.
Sur la généalogie ?
J'ai fait deux livres de généalogie.
Comment on fait un livre sur la généalogie ?
Eh bien on va chercher toutes les anecdotes sur certaines familles, on va dans les archives départementales, on va chercher tous les aïeuls. Et moi ce qui m'intéresse surtout dans l'histoire de la généalogie, c'est pas tellement d'avoir des listes de noms avec des dates de naissance, de mariage, des choses comme ça, mais c'est de retrouver toutes les petites histoires qui sont derrière, donc c'est fou. Les archives, c'est...
Et sur ta propre famille ou sur quelqu'un
d'autre ? Sur ma propre famille, sur celle de ma femme, sur des branches comme ça qu'on remonte et on va chercher plein d'informations, des lettres qui ont été écrites dans des moments un peu particuliers. J'ai des lettres d'une personne qui va se faire guillotiner une heure après, à l'époque de la Révolution. J'ai des lettres d'une personne qui vient d'avoir son fils qui est décédé et qui a écrit à son mari pour lui raconter. Il y a des choses très prenantes comme ça. Et en fait, on arrive à retrouver des petites histoires dans la grande histoire qui sont assez terribles et qui permettent de voir un petit peu comment les hommes ont évolué par le passé.
Ok, donc c'est très différent justement des livres sur l'informatique très terre à terre et scientifique.
Tout à fait, oui.
Super. Donc informatique, généalogie et tu as dit...
L'écologie. J'ai écologie. Fait un livre sur la transition écologique aussi.
Ah même. Super, c'était il y a longtemps ?
C'était avec un collègue d'Orange et on a fait ça, oui, en 2014, il est sorti, ouais.
Ouais, et sur l'écologie,
c'est la transition d'écologie, c'est vraiment l'écologie pratique. Là, on n'est pas surtout sur la politique et ce qu'il faudrait faire, etc. C'est vraiment sur la permaculture, isoler sa maison, tous les petits gestes dont on parle maintenant beaucoup. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on l'a écrit en 2010-12, on en parlait un peu moins. C'était pas aussi, on commençait, hein, mais on n'en parlait pas autant. Et c'est vraiment tout ça qu'on essayait de mettre en place. Essayer de voir un petit peu tout ce qu'on pouvait faire dans les différents domaines. Voilà. Comment se soigner, c'est vraiment les choses pratiques du quotidien.
Super, et c'est des livres qui sont toujours disponibles à la vente ?
Oui, celui-là il est disponible chez l'éditeur Imagine un Colibri, qui est un des plus gros éditeurs de permaculture en France, ouais, qui a d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sa bibliothèque, il y a vraiment des choses très intéressantes dans ces livres, ouais, notamment sur la permaculture.
Ok, bon, c'est des très bons conseils. Donc ça c'était les premiers livres, et après à partir de 2019, tu as sorti des romans.
Tout à fait.
Alors est-ce qu'on va citer les noms déjà, le premier c'est, alors j'ai peut-être pas dans l'ordre, La règle du jeu.
Alors le premier c'est Jéricho.
C'est Jéricho, mince. Donc Jéricho, La règle du jeu, Joséphine et le Soukounian, ouais. Et Anormal.
Voilà.
Est-ce qu'on peut en parler peut-être chacun son petit moment
alors,
de gloire.
Voilà. Alors le premier c'est Jéricho. Donc c'est une duologie en fait. Il y a Jéricho et Autrice. Et je l'ai regroupé sur un seul livre maintenant qui est en version intégrale. Et c'est une duologie donc d'anticipation. Et là c'est parti. C'est le premier que j'ai écrit et c'est parti d'une idée qui était si l'homme avait arrêté le cycle de l'eau. Et que le monde était aride, qu'en fait l'eau potable, ce qui va bientôt nous arriver, venait à manquer, comment elle se débrouillerait pour envoyer des petits drones dans le ciel, récupérer les nuages et se faire un petit peu la guerre pour récupérer les nuages, pour hydrater là où ça les arrange au niveau des pays. Et ça devient un peu la ressource entre les différents pays que l'on cherche à récupérer.
Mais c'est de la science-fiction, mais en même temps, ce n'est pas de la science-fiction. Quoi.
Non.
Parce
non.
que les nuages, traiter les nuages pour qu'ils puissent pleuvoir,
ça existe.
C'est vrai.
Ouais, voilà.
Ça existe.
Moi, j'ai écrit ça en 2016 et sorti en 2019, effectivement. Et effectivement, il y a tout ça, ça existe dans le désert. Aujourd'hui, on fait pleuvoir quand ça nous arrange à l'endroit où ça nous plaît. Les Chinois font ça aussi. On commence effectivement, alors pas à diriger les nuages, mais effectivement à les percer, enfin à envoyer des fusées
dingue.
De sel dedans pour que ça pleuve à l'endroit qui nous arrange.
Ouais. La science-fiction, comme quoi ça peut... se réaliser. Hein.
Absolument.
Anormal.
Anormal, c'est l'histoire d'un c'est une fable dystopique. Une dystopie, c'est un monde un petit peu décadent. C'est un monde, si vous voulez, l'utopie, c'est le monde merveilleux.
Ouais.
Et la dystopie, c'est le monde au contraire, un peu post-apocalyptique, un peu où ça se passe pas bien. Voilà.
Ok, donc alors on a le cadre déjà.
Alors c'est pas post-apocalyptique là, mais on est dans un monde où tous les gens vivent enfermés dans leur écran. D'accord, ils sont dans des petites bulles où ils regardent des scénarios toute la journée. Et ces scénarios sont faits pour capter leur attention en permanence. Donc dès qu'il y a quelque chose, ils perdent un peu d'attention. Hop, on va rechanger l'histoire au fur et à mesure pour qu'ils soient tout le temps captés et qu'ils passent finalement leur vie dans cette bulle. Et dans ce monde-là, dans cette ville-là, on a un garçon qui s'appelle David et qui, lui, ne peut pas supporter les écrans, ça lui donne la migraine. Donc, du coup, c'est le seul qui va lire des livres et qui se promène dans la rue au milieu des drones.
Au milieu des drones. La règle du jeu.
La règle du jeu, ça, c'est un livre totalement... purement action-aventure. On est un peu dans le genre des Stephen King, les premiers Stephen King, Marche ou crève, Running Man, ces ambiances-là, un petit peu... pareil, c'est un peu dystopique. Hein. Et voilà, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui se retrouvent dans un jeu. Ils savent qu'ils sont dans un jeu. Et par contre, ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour gagner.
Donc, c'est un Jumanji, Hunger Games, quoi.
C'est un petit peu ça. C'est un genre d'Hunger Games. Ils doivent essayer de trouver la porte de sortie. Et ils savent juste qu'il n'y en a qu'un seul qui peut gagner à la sortie.
Donc, okay. Voilà. Et le tout dernier, c'est Joséphine et le Soukounian.
Oui, qui est sorti là en novembre dernier, donc qui est un livre historique sur la période de l'esclavage en 1840 aux Antilles. Voilà. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive là-bas et qui effectivement est assez moderne pour son époque et qui refuse un petit peu l'esclavage. Et donc qui va se promener un petit peu dans ce monde-là et qui va découvrir tout. Le Soukounian, c'est un...
Oui, qu'est-ce que c'est? C'est un nom barbare, ça?
Le Soukounian, c'est le vampire des esclaves antillais, en fait. Ça vient, c'est une bestiole venue d'Afrique qu'ils ont importée aux Antilles.
Un fruit.
Non, c'est un vampire. C'est une boule de feu qui se promène la nuit et qui va sucer le sang de ses victimes.
Oh, sympa. C'est vraiment une légende de là-bas ou tu
l'as
inventé?
C'est vraiment une vraie légende. Oui. Alors, c'est vraiment historique, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre fantastique. Donc, mais c'est vraiment un livre historique qui raconte un petit peu toutes ces croyances de ces peuples à ce moment-là et de toute la façon de fonctionner dans la colonie et toutes les relations qu'il y avait aussi entre les esclaves et les maîtres, etc.
Ok, donc 4 livres, un cinquième en prévision, bon, on va en parler peut-être à la fin. Oui. On va le garder sous le coude, celui-ci. C'est 4 livres avec des styles quand même un peu futuristes et d'aventure, on va se résumer comme ça.
Tout à fait.
Malgré qu'il y ait quand même un petit peu d'histoire, ça reste une aventure. Voilà, et bon, ça se rejoint très bien. Est-ce qu'il y a un point commun quand même entre ces 4 livres qui font que c'est du Guillaume Desgorges?
Je dirais que ma particularité, peut-être, en tant qu'écrivain, c'est d'avoir des personnages assez normaux. C'est-à-dire que je n'aime pas beaucoup les caricatures, en termes de, que ce soit en termes de scénario, que ce soit en termes de personnages. Donc, moi, j'aime bien que les personnages soient comme toi et moi, qui réagissent normalement, qu'il n'y ait pas des événements qui arrivent au milieu du livre et qui fassent que, en gros, parce que ça arrange l'auteur, on va essayer de changer un peu le cours du... pour créer un petit peu des distances, des problèmes qui n'existent pas vraiment. Donc j'aime vraiment que les scénarios soient construits et que soient réels, voilà, avec des personnages normaux. Donc que vraiment ce soit comme qu'on puisse s'identifier facilement aux personnages.
Ok, donc tout le monde peut les lire ou c'est pour un âge particulier? C'est peut-être young adult, il y en avait un.
Ouais, anormal. Trois même, anormal, La règle du jeu et Joséphine et le Soucoulien sont vraiment... peuvent être lus par les ados dès 12-13 ans sans aucun problème. Jéricho, autrice, le futuriste est un peu plus... c'est pas qu'il y ait de choses particulières dedans, mais c'est juste que les ados, ils ont besoin de plus d'action et donc ils risquent de plus s'ennuyer sur la mise en place du livre.
D'accord, donc c'est quand même assez ouvert à tout le monde.
Oui, ça, il n'y a aucun problème. De toute façon,
très bien. Très bien. Les premières infos sont déjà plutôt pas mal, c'est alléchant. On va écouter un autre titre que tu as prévu pour ta playlist. C'était LP, Lost on You. On se retrouve juste après pour Un cri qui court dans la nuit.
Plainer, saner, we remember all the danger we
19h-20h, le 19 hors taxe avec Mélanie.
Alors, hors antenne, on parlait justement avec Guillaume de dystopie et la chanson de Big Flo et Oli, Rentrer chez vous, est une dystopie en fait.
Exactement.
J'apprends des nouveaux mots. Tu vas peut-être aimer du coup mon petit jeu après les anecdotes de culture générale, c'est le mot du jour. Donc, peut-être que tu le connaîtras. On va passer tout de suite à la chronique polar, la chronique littéraire de Betty. Ça s'appelle Un cri qui court dans la nuit. Et le temps que je la retrouve, je l'ai perdu de vue. Et donc, du coup, toutes les deux semaines, on a un écrivain, un livre mis à l'honneur. Et ce soir, c'est James Herbert. Et on l'écoute tout de suite.
Auditrice, auditeur, lectrice, lecteur, enquêtrice, enquêteur, bienvenue à tous. Vous écoutez Un cri court dans la nuit, votre chronique polar sur votre radio préférée. Peut-être découvrirez-vous des histoires intrigantes et intéressantes qui piqueront votre curiosité. Vous risquez de vouloir en savoir plus, mais promis, ce sera toujours sans spoiler. James Herbert, La conspiration des fantômes. Ce livre était caché dans ma bibliothèque depuis un temps indéterminé, sûrement l'heureuse trouvaille d'un vide-grenier ou d'une brocante. Je l'ai ouvert et j'ai plongé avec David H., enquêteur spécialisé dans les phénomènes paranormaux, dans le village tourmenté de Sleeth en Angleterre, où les morts reviennent à la vie dans un sinistre dessin. À chaque meurtre sanglant, David H. se rapproche un peu plus du pourquoi du comment de toute cette sombre affaire, mais ce ne sera pas sans semer la pagaille aux grandes dames des villageois, et y laisser des plumes. Les descriptions des scènes y sont impressionnantes de réalisme grâce aux minutieux détails, et il y en a pour tous les goûts. Des vivants, des morts, hommes, femmes, enfants, de l'histoire, du sexe, de l'alcool et autres pensées inavouables, tapis dans les tréfonds du cerveau humain. En résumé, il y a tous les ingrédients dignes d'une bonne série Netflix, mais en mieux, bah oui, c'est un bouquin. La conspiration des fantômes de James Herbert, ou comment les esprits torturés décident qu'ils n'en ont pas fini avec notre monde. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle chronique polar. Auditrice, auditeur, lectrice, lecteur, enquêtrice, enquêteur, à bientôt sur votre radio préférée.
Merci à Betty pour cette chronique littéraire. On vous invite du coup à lire ce livre si l'annonce vous a plu, le résumé, le pitch.
C'est ça.
Et nous, on va continuer un peu en musique. Il est 19h24 et on va écouter Arthur Sims et Eric Serra, It's Only Mystery, du choix de Guillaume aussi. On se retrouve juste après sur FMR pour la deuxième partie d'émission.
How can I keep on smiling at their disguise when I know nothing good ever comes from lies. My heart is no beginner, but still
I can lose my temper. Yeah. How can we keep on watching that fucking TV? We're so bored, we don't even care what we see. Takes our strength away. And never shows us the way. No. But I think I know the answer. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. It's only mystery, and I like it. It's only mystery. How can the banks of a river meet? Sitting on her bed, staring at her feet. She thinks life is water, and love is a river. Oh yeah. But is a child the answer? It's only mystery. Mystery.
L'invité du 19 hors taxe. Attention, il y a des cafards dans l'escalier.
Et l'invité du jour sur FMR dans le 19 hors taxe, c'est Guillaume Desgeorges. Et on va continuer du coup à découvrir un petit peu ton univers. Alors déjà, comme tu es écrivain et que moi je n'y connais rien là-dedans, j'aimerais bien savoir comment naît une histoire dans ta tête. T'en as écrit 4 quand même, c'est pas anodin. Hein. Genre, un livre doit prendre tellement de temps déjà. Comment ça naît, la petite graine? C'est quelque chose que tu vois? Quelque Alors, chose que tu as depuis la, je sais pas, ton adolescence, peut-être un rêve?
Non, enfin, il y en a qui peuvent durer depuis très longtemps. Après, pour un livre, il faut deux choses. D'abord, une idée. Voilà. Mais l'idée, ça ne suffit pas. C'est ça, l'idée, ça, il faut d'abord une idée et ensuite, il faut un scénario. Et il faut vraiment réussir à allier les deux. Des idées, on en a plein. Moi, j'en ai des cahiers entiers d'idées de livres.
Ah ouais?
J'ai vraiment un fichier... Dans lequel j'ai plein d'idées. Donc chaque fois que je veux écrire un bouquin, je regarde et je me dis, tiens, chaque fois que j'ai une idée, je la note. Et ça peut venir à n'importe quel moment, une idée en regardant un livre, en regardant un film.
En étant à la radio FMR.
En étant à la radio FMR. Wow. Tout peut être prétexte, même un fait divers, quelque chose d'actualité, vraiment des choses anodines, une phrase, n'importe quoi peut donner une idée. Et après, la difficulté, c'est de trouver un scénario sur cette idée. C'est-à-dire quelque chose qui non seulement va donner quelque chose de particulier, mais en plus derrière va permettre de développer cette idée pour qu'elle, voilà, pour qu'elle prenne forme sur toute la durée d'un roman.
Voilà, parce que justement, qu'est-ce qui fait qu'une idée peut faire un bon livre ? Qu'est-ce que tu
Alors,
te dis, celle-ci,
toutes les idées peuvent faire
garde.
Un bon livre, mais après, c'est qu'on n'a pas forcément l'idée pour développer le roman. Ouais. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, par exemple, anormal, l'idée de quelqu'un qui ne peut pas regarder les écrans alors que tout le monde est devant tout le temps des écrans. Bon, c'est une idée. Voilà. Il est tout seul, il se balade dans la rue, donc ça, c'était l'idée de base. Mais après, il faut développer tout un scénario derrière qui permette de faire exister cette idée. Et c'est ça qui prend beaucoup de temps. En général, le début pour écrire l'histoire, c'est assez simple. Les 4-5 premiers chapitres, en général, on raconte le monde dans lequel on imagine notre héros. Donc, on va créer un petit peu son univers, on va créer notre personnage, etc. Et la difficulté, c'est après, quand il faut démarrer pour savoir vers quoi on va faire évoluer notre idée. Et alors là, il y a deux types d'auteurs. Il y a ce qu'on appelle les jardiniers, les gens comme Stephen King, qui vont écrire au fur et à mesure de leurs idées, mais qui ne vont pas savoir où ils vont. Ils vont écrire, et ils vont essayer de faire monter un petit peu la mayonnaise, et c'est ce que fait très bien Stephen King dans tous ses livres, c'est pour ça qu'il fait des très bons films, d'épouvante et tout ça. Il fait monter, mais il ne sait pas forcément à la fin comment ça va se finir. Et des fois, d'ailleurs, il ne retombe pas forcément sur ses pattes à la toute fin. Et puis, il y a la deuxième équipe, c'est les architectes, où eux, ils ont tout construit avant d'écrire, et eux, ils ont déjà leur scénario, chapitre par chapitre, ils savent ce qu'ils vont raconter, ils savent où ils vont, etc.
Voilà, il faut... Tu fais partie de quelle team ?
Je suis entre les deux.
Entre les deux.
Je sais où je vais, je connais en général la fin de mon histoire, je connais le début, mais je ne sais pas par où je vais passer. Donc j'essaie de trouver des développements, de rajouter des personnages. Quelquefois, quand j'ai plus d'idées, je rajoute un personnage. Voilà, je me dis, tiens, mais il va rencontrer quelqu'un. Et puis ça va me permettre peut-être de débloquer mon histoire, etc. Et comme ça, on construit l'histoire, mais il ne faut jamais perdre de vue l'endroit vers lequel on veut aller.
Alors du coup, je me demandais, est-ce que tu as un tableau chez toi avec un tableau pour résumer ta pensée ? Parce que justement, pour savoir les interconnexions entre chaque personnage, savoir quel va être son rôle pour la fin. Alors, qu'est-ce qu'il a dit qui va pouvoir être tissé pendant quelques chapitres ? Est-ce que tu as quelque chose de physique sur ça ?
J'ai quelque chose de physique, c'est numérique, mais j'ai un fichier en tout cas pour chaque livre que j'écris. Dans mon fichier, j'ai effectivement des bouts de phrases. Souvent, en fait, quand je vais me coucher, j'ai des idées de dialogues, des phrases qui surgissent. Et je me dis à ce moment-là, il faut qu'il dise quelque chose comme ça. Ce sera un moment. J'ai des idées de moments un peu forts dans le livre, des moments de bascule de l'histoire, des moments où il va se passer quelque chose d'un peu important. Et ces moments-là, je les note. Et après, je les ordonnance dans un fichier. Et en fait, j'essaie de passer par ces différents points. Et après, je ne fais que raconter l'histoire pour arriver à ces points-là.
Ok. Combien de temps, justement, ça te prend à écrire un livre ?
En général, 6 mois.
6 mois ?
6 mois, mais c'est en général 1 mois où j'écris, 3-4 mois où je réfléchis et 2 mois où je finis d'écrire. Voilà.
D'accord.
Pour donner c'est en fait l'écriture dedans et finalement la partie écriture est assez faible dans le processus. C'est vraiment beaucoup de réflexion d'écrire un livre. On vit avec son histoire pendant 6 mois. On est vraiment, enfin moi c'est mon cas, je suis vraiment, faut que j'y sois tout le temps avec elle. C'est-à-dire qu'elle doit, elle m'occupe, j'y pense j'y pense en permanence. Pour que ça se débloque, voilà, je promène mon chien en forêt le midi, je pense à mon histoire, ça m'occupe et pour que les choses se débloquent. Et puis souvent quand le scénario est bien en place, qu'on sent que c'est mûr. Là, on peut commencer à écrire.
Ouais.
Alors après, moi, c'est vrai, je reviens pas du tout en arrière. Donc, du coup, quand j'écris, c'est que je suis sûr de mon histoire et je sais dans quel sens ça va évoluer.
J'imagine que tu as des amis ou de la famille qui sont en quelque sorte des crash tests, qui lisent tes histoires ou que tu leur en parles quand tu as des idées.
On appelle ça des bêta-lecteurs.
Des bêta-lecteurs.
Alors, c'est pas forcément des gens trop proches. Ça dépend. Au début, je prenais des gens très proches. Alors oui, ma femme est la première à lire les choses. Alors le problème, c'est qu'elle lit que des premiers jets tout pourris. C'est pas de chance pour elle. Mais après, en général, j'attends vraiment que ce soit fini. Et j'essaye de trouver des gens que je connais, hein, bien sûr, mais qui ne sont pas forcément des gens tout proches. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même un certain recul. C'est très difficile de trouver des gens qui vont avoir un avis objectif et qui vont oser faire des vrais retours. En fait.
Et c'est ce que j'allais dire, parce que des fois, on peut avoir justement... Bon, quand on prend la famille, c'est peut-être plus simple d'avoir des retours... clash si ça va
alors,
pas.
Ça peut être tout ou rien. Ça peut être des gens qui vont peut-être dire aussi trop de choses alors qu'il n'y a pas forcément de matière à lire ou des gens qui vont au contraire être trop gentils. C'est difficile de trouver le bon niveau en fait de retour pour que ce soit vraiment, enfin pour que ce soit utile.
Et est-ce que c'est pas une drôle d'impression de savoir que des gens lisent ce qui était dans ta tête initialement ? Ça fait pas bizarre ?
Ça fait plutôt plaisir que bizarre.
Plaisir.
Moi, quand j'ai des lecteurs qui viennent me voir, voilà, souvent, je suis dans les marchés de Noël ou les salons du livre ou les Leclerc. Voilà. Et que les gens reviennent d'année en année, puis prennent le livre suivant et puis me disent ce qu'ils ont pensé du précédent. Et il y a tout un dialogue qui s'instaure avec des gens que je vois finalement une fois par an ou que je connais assez peu. Et c'est très sympa d'avoir vraiment ce retour-là, d'avoir l'impression de les connaître. Après, bon, bien sûr, sur Facebook ou Instagram, ils vont avoir des retours au cours de l'année, mais c'est vraiment sympa d'instaurer une relation de ce type-là. Ouais.
Est-ce que tu pourrais nous parler du dernier livre que tu as lu ?
Que j'ai lu ?
Oui, parce que j'imagine que tu es un grand lecteur.
Je lis raisonnablement, mais je lis, oui, bien sûr, quand même. Le dernier que j'ai lu, c'était Ken Follett, donc le cinquième de la saga des Piliers de la Terre. Je ne sais pas si tu connais.
Je connais le premier.
Voilà, bon, il y en a eu cinq. Donc, il y a eu l'époque des Vikings, l'époque des cathédrales, vers 1300-1400 après les cathédrales. Et ensuite, on a eu la période d'Elisabeth Ier. Et ensuite, là, le dernier qui vient de sortir, c'est la période de Napoléon. Et donc, voilà, moi, j'aime beaucoup.
Ça en dit beaucoup parce que moi, mon livre actuel, c'est Peter Pan. On voit lequel ne veut pas grandir et lequel est planté dans l'histoire.
Je lis vraiment de tout. Je peux lire du Ken Follett. Après, j'aime bien Dan Brown. J'écris de tous les genres et je lis de tous les genres. Je ne suis pas lié à un genre particulier.
Et si tu devais me conseiller un livre à lire absolument cette année ou un auteur ?
Un auteur à lire cette année ?
C'est mon défi. Cette année, je dois lire plus que l'an dernier.
Ce serait bien de reprendre Ken Follett déjà.
Ken Follett.
Mais après, moi j'aime beaucoup Dan Brown aussi, qui est un auteur que j'aime particulièrement. Ouais. Même s'il n'a pas sorti particulièrement de choses cette année.
Je pensais que tu allais dire Guillaume Desgorges, mais bon. Ah. C'était le piège, c'était la question piège. Est-ce que tu travailles déjà sur ton prochain roman ?
Alors j'ai déjà le prochain qui est prévu à sortir en juin chez un éditeur, et ensuite j'en ai déjà un autre qui est en écriture, et j'ai même déjà les pensées pour les suivants.
Il y a tout un cahier.
Voilà, il y a tout un cahier, donc du coup ça évolue tout ça en parallèle.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des livres croisés, des histoires croisées à un moment donné ?
C'est très tentant. Là par exemple, le dernier, Joséphine et le Sous-Cougnan, qui se passe en 1840, j'ai très envie d'écrire la suite. Le fait d'avoir sorti que je pensais être un one shot, une seule histoire, je suis en train de me dire que du coup j'irais bien jusqu'en 1848, quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, et voir comment les choses se sont inversées en termes de rapport humain à cette
période. Ça peut être intéressant.
Voilà, passer de l'esclavage à la période de non-esclavage. Voilà, pour la petite histoire sur cette période-là, j'ai un aïeul qui était aux Antilles à cette époque-là, qui écrivait à sa famille qui était en France. J'ai toute sa correspondance à la maison. Ouais, je m'intéresse beaucoup à la généalogie, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette période-là. Et du coup, effectivement, j'ai toute sa période au moment de l'abolition de l'esclavage où il l'écrit, il explique tout ça. Et c'est intéressant de voir les relations qu'il peut y avoir à ce moment-là et comment les colons pensaient que l'histoire se déroulait sous leurs yeux.
Ok. Est-ce que tu as des projets, par exemple, de dédicaces qui arrivent ? Parce que bon, le prochain livre c'est en juin, mais est-ce que d'ici là il y a d'autres...
Oui, alors le 10 février je serai à Cultura Portée sur Garonne, le 2 mars à Leclerc à Roufiac, le 9 mars il y a le Salon du Livre de Balma, le 16 mars je suis à Cultura Balma. Donc oui, j'ai toujours des dates prévues effectivement.
Voilà. En attendant la sortie.
Donc si vous voulez me voir, vous n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Facebook ou Instagram. Et dessus, je mets systématiquement quand je suis à un endroit. Ça permet aux gens de savoir où je vais et de rencontrer les personnes.
Tes réseaux sociaux, c'est Guillaume Desgorges ?
Auteur pour le Facebook et Guillaume Desgorges pour l'Instagram.
Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver tes livres ? Est-ce qu'ils se vendent en physique ? Ou alors juste en numérique, Kindle, tout ça ?
Alors, ils se vendent en physique et en numérique. Le plus simple, c'est de m'écrire à moi directement. Après, on peut les trouver sur BOD. Il faut savoir que mes premiers livres, en fait, étaient sortis chez un éditeur, mais l'éditeur a fermé. Du coup, je les ai ressortis à l'identique en auto-édition. Et donc, maintenant, ils sont disponibles sur une plateforme qui s'appelle BOD, Books on Demand, qui sont une plateforme d'auto-édition.
Ça, c'est super comme système.
Oui, c'est vachement bien. C'est vraiment bien.
Ça évite d'avoir du stock.
C'est ça.
Et c'est vraiment à la demande, quoi.
Et donc, quand quelqu'un l'achète, il est imprimé. C'est aussi simple que ça. Alors, moi, j'ai un stock à la maison qui est toujours présent. Donc, c'est encore plus simple écologiquement parce que j'en fais venir plus d'un coup. Mais effectivement, sinon, c'est un livre, un envoi. Il n'y a pas de stock qu'on détruit parce qu'on n'a pas vendu les livres.
Trop bien. On va terminer avec une question. Si tu devais donner un conseil à une jeune fille ou à un jeune garçon qui écrit dans sa chambre et qui rêve d'être un jour publié, tu lui dirais quoi ?
De pas forcément trop réfléchir, d'écrire, de pas hésiter à écrire. C'est bien d'avoir un but, parce que souvent les jeunes, la difficulté c'est de construire un scénario fini. Donc c'est bien de garder une ligne directrice dans son histoire, mais par contre il faut pas se brider pour essayer de ressembler à telle ou telle chose. Faut pas écrire pour quelqu'un, faut vraiment écrire comme on a envie d'écrire. Et même si on n'est pas à la mode, que c'est pas, voilà, moi en ce moment c'est beaucoup la romance, la fantasy, des choses comme ça. Bah, c'est pas ce que j'écris, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas écrire ce qu'on a envie d'écrire. Faut pas essayer d'écrire pour faire plaisir ou pour vendre. Faut écrire pour soi. Et après, alors bien sûr, il y aura quelqu'un qui va le lire, donc il faut quand même être un peu conscient que ça, faut que ça puisse plaire aux autres. Mais il faut surtout écrire en se faisant plaisir dans l'écriture, voilà, en suivant son propre chemin.
Très bien, ben, je te remercie Guillaume pour ces conseils. Et puis on repostera toutes les infos des livres. Donc on va redire les titres. Il y a Jéricho, il y a Anormal, Joséphine et le Soucougnan et La Règle du Jeu. On mettra ça sur les réseaux sociaux de l'émission Le 19 hors taxe. Tout de suite, on va écouter un autre titre de ton choix. Alors là, on passe sur du rock. Guns N' Roses, j'adore. C'est parti, Sweet Child O' Mine.
L'anecdote de la machine à café. C'est l'anecdote que tu racontes tous les matins à la machine à café. On n'avait pas trouvé de titre mieux.
Bah, du coup, on va faire avec. Hein. On va faire avec cette anecdote de machine à café. Alors, on va commencer avec une première anecdote que j'ai trouvée. Donc, demain, du coup, quand tu seras en pause, je ne sais pas si tu seras au bureau demain, mais tu pourras raconter ces anecdotes à tes collègues. Et ils diront « Waouh, Guillaume, franchement, t'as vu Arte hier soir ou quoi ?» Alors, la première, c'est autour du lait maternel. Il contient énormément d'anticorps, mais la salive du bébé joue aussi un rôle immunitaire important. D'une part, elle contient des substances antimicrobiennes, comme la xanthine, et d'autre part, elle apporte des informations aux glandes mammaires. Celles-ci détectent les pathogènes présents dans la salive du bébé et reproduisent les anticorps adéquats. Ça, je ne savais pas.
Oh, c'est fort, c'est ouais. Fort, ça.
Le corps humain est extraordinaire. Deuxième anecdote, c'est, on va parler sport, le criquet. L'unique apparition du criquet aux Jeux Olympiques eut lieu en 1900, aux Jeux de Paris. Seules deux équipes se disputèrent le titre. C'était là.
L'Angleterre et l'Écosse.
La Grande-Bretagne et la France.
Ah, la Grande-Bretagne.
La Grande-Bretagne remporta la partie face à elle-même en quelque sorte, puisque l'équipe française était composée que de joueurs anglais inscrits dans des clubs parisiens. Voilà. Les messors. Est-ce que tu connais ce que c'est ?
Non.
Les messors, c'est un animal. C'est des fourmis. C'est des fourmis boulangères qui utilisent des graines pour créer une sorte de pain après les avoir mâchées. Elles pétrissent les petites boules qui deviennent riches en nutriments et servent alors de source alimentaire pour des œufs de la colonie. Voilà, les fourmis, c'est fascinant aussi. Cette organisation dans une communauté, c'est dingue.
Incroyable.
Je pense qu'on pourrait passer longtemps à les regarder, même si c'est très primaire. Mais,
Il y a lire Bernard Weber.
Comment ?
Il y a lire Bernard Weber.
Ah oui, c'est vrai, il y a Bernard Weber qui est ça. Apple, on connaît bien les produits, les téléphones, ouais. Les ordinateurs. Les Walkman, tout ça. Enfin, les Walkman, on dirait une vieille qui parle.
C'était des, Apple Watch, c'est mieux.
Ouais, les Apple Watch, mais aussi tous les trucs pour écouter la musique, ouais. Quoi. Eh bien, sachez qu'ils ont aussi produit des chaussures. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit « what ?» Réservées aux employés de la firme, elles furent distribuées à compte-gouttes dans les années 90 et donc extrêmement rares. Celles proposées de nos jours sont en vente aux enchères et se vendent à des dizaines de milliers de dollars. Ce sont des objets de collection. Sachant que, déjà, il y a des chaussures, des sneakers, qu'ils appellent... qui peuvent valoir très très cher. Un jour, je suis allée dans un magasin, 600 euros la paire de pompes. Moi, je touche pas. Hein. Ça coûte un peu cher quand même. Autre anecdote, on va partir maintenant en Ontario. L'université Western Ontario possède un laboratoire de tornades. Elle dispose notamment d'une salle hexagonale comptant plus d'une centaine de ventilateurs extrêmement puissants, capables de reproduire les conditions d'une vraie tornade. La salle est assez vaste pour abriter une vraie maison. Voilà, ils font des tests là-dedans. Donc ça, c'est peut-être une idée pour un livre.
Ouais, ça peut être pas mal.
À noter ce soir sur le calepin. Et enfin, dernière anecdote. Un peu plus de 2000 personnes dans le monde, dont 54 en France, perçoivent de l'Allemagne une pension en tant qu'ancien collaborateur du régime nazi. Cette indemnisation fourre-tout est versée aux soldats comme aux civils, qu'ils aient été collaborateurs volontaires ou forcés. Les anciens SS et les personnes condamnées pour crimes de guerre sont toutefois exclus du dispositif. On apprend des choses tous les jours.
C'est terrible.
Et enfin, la dernière partie, c'est le mot du jour. Alors, je te dirai un mot. C'est à toi de me dire qu'est-ce que c'est. Donc, je pense que c'est un facile aujourd'hui. Androcéphale.
Androcéphale.
Le sphinx est androcéphale. C'est un
alors,
petit indice.
Céphale, c'est le cerveau. Andro.
Androgyne.
Ouais.
Andro.
De...
Andros.
De... Le sphinx.
Ça alors, veut là... dire qu'il y a une tête humaine.
Ah.
Voilà, tu pourras le caler dans le prochain livre. Tu penseras à moi.
L'androcéphale sera le titre.
Voilà. Bon, j'espère que vous avez appris des petites choses aujourd'hui. On va continuer avec du coup une dernière musique, ou peut-être la dernière, peut-être l'avant-dernière, on va voir. Et ensuite, on passera à l'agenda. On se retrouve juste après Octobre de Francis Cabrel.
Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Et des nuages pris aux antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines, regarder tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline. Se souviennent et des nuages pris sur les antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On verra apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres. Vous vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre restera peut-être. Octobre restera peut-être.
Toutes les sorties de la semaine à Toulouse, c'est avec l'agenda du 19 hors taxe.
Le temps pour nous de vous laisser avec des petites idées d'activités à faire à Toulouse. Alors on va commencer par une bonne action. Déjà, c'est pas mal, la Ligue contre le cancer de Haute-Garonne vous informe de la tenue de la 6e édition de la Toulouse en couronne qui se déroulera le dimanche 4 février 2024 au campus Santé du Futur de Toulouse. C'est une course solidaire qui est organisée dans le cadre de la Journée mondiale contre le cancer et au profit de la recherche médicale. Il y aura plusieurs épreuves au programme. Il y a une course de 10 km chronométrée, une course de 5 km non chronométrée, une marche de 5 km chronométrée. Ça, je me demande comment tu cours pas. Mais... Et seul ou à plusieurs, vous pouvez venir en groupe avec des entreprises ou entre étudiants en particulier, tout ça, tout ça. Donc juste, n'hésitez pas à venir. Il y aura aussi des animations autour de ça avec des bandas, des pom-pom girls et là, bien sûr, la remise des prix. Voilà, je peux ajouter aussi qu'à ce moment au Capitole, il y a le don du sang, la grosse fête autour du don du sang. Donc c'est dans la salle du Capitole, la salle des illustres, quoi de mieux pour donner son sang, faire une bonne action également. Et ça c'est jusqu'à samedi. Sinon, vous pouvez aussi aller voir des concerts. The Diogène, qui est un groupe grunge rock punk psycho aristocratique, se sont-ils dit. Ils seront en concert à l'archipel de Tournefeuille le jeudi 1er février à 19h. Et il y a aussi le groupe Adelphia, ça c'est du jazz rock électro groove, qui sera à l'archipel également de Tournefeuille le jeudi 8 février 2024 à 19h. Côté soirée, je vous propose une soirée bière et burger ce vendredi 26 de 17h à minuit. Ça se passe au hall de la Transition. C'est des burgers VG super gourmands avec plusieurs recettes au choix, des pintes de bière à seulement 5 euros, à consommer avec modération bien évidemment. Ça se passe à la halle de la Transition. Et en plus, il y aura pas mal de musique, une friperie et un stand de tatouage et illustrations seront sur place. Voilà pour l'agenda. Je vous propose d'écouter une dernière chanson avant de se quitter, de se dire au revoir. On termine sur du bon. Aerosmith, Dream On. Et on se retrouve pour dire au revoir juste après.
À 20h, tout pile. Ouais, parce qu'il n'y a pas le choix, il y a l'émission d'après, donc comprenez, c'est un peu... C'est le 19 hors taxe sur FMR.
Et oui, l'émission d'après, Reza Mansol d'Emmanuel, on va du coup se quitter. Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu, d'avoir
merci
partagé
à toi
ton univers et tes livres, tout ce qui est dans ta tête, au final. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite tous de passer une très bonne semaine et je vous fais des bisous.